voit les femmes de l'Espagne et de la terre orientale. J'ai réduit totalement ce qui
se passe. Moi, j'ai essayé de vous remercier au cas d'engage. Je pense qu'on peut, en combinant les deux, c'est-à-dire de mes précédents, trouver une solution par rapport à ça.
Merci de choisir Radio Capille, la fréquence de la paix, et bienvenue dans Parole aux auditeurs qui vous propose ce nouveau numéro. Le tout premier de cette semaine, le premier ministre congolais Augustin Matata Ponyo a affirmé au cours d'un point de presse sur le bilan du gouvernement pour l'année 2015 que l'indice de pauvreté des Congolais est passé de 85 à 63%. Ceci pour répondre à ceux qui disent que la croissance économique de la République démocratique du Congo n'est pas inclusive. Il s'est par ailleurs félicité du bilan économique de son gouvernement. Certains observateurs estiment qu'au regard de la réalité socio-économique que présente le pays, ce bilan dressé risque de ne satisfaire que la communauté internationale. Une autre opinion pense que les efforts du gouvernement devraient tendre réellement vers le remplissage du panier de la ménagère. Qu'en pensez-vous? Vous pouvez participer à cette émission en composant les 081-890-6315 pour votre intervention donc en direct. Vous avez également la possibilité de poster vos commentaires sur notre page Facebook ou bien nous écrire donc à pa@radiocapi.net. Julie Pesa Bongonda est au standard, Sylvain Matungu à la mise en onde, et Pierrot et la Mégère à la réalisation de ce programme, coordonné et présenté par J.R. Lungembo sous la supervision de Martin Sebou Jangwe. Bienvenue à tous.
Parole aux auditeurs, pour participer, 081 890 63 15 ou par internet pa@radiocapi.net.
Parole aux auditeurs, J.R. Lungembo.
Nous ouvrons directement les débats à l'Estandard, donc avec vous, Jean-Pierre, vous êtes à Wamba. Jean-Pierre, bonjour.
Bonjour, messieurs les journalistes. Bonjour, Gérard. Bonjour à toute l'équipe des Paroles de Citerie. Bonjour à tous les Congolais.
Voilà, comme certains observateurs l'ont estimé, est-ce que vous partagez cet avis qu'au regard de la réalité socio-économique que présente le pays, ce bilan dressé risque de ne satisfaire que la communauté internationale?
Oui, oui. En tout cas, j'ai été vraiment déçu par les statistiques que le chef du gouvernement nous a présentées. Je ne sais pas si cette croissance inclusive que lui parle, c'est dans les ordinateurs de son ministère ou quoi. Parce que normalement, si, on devait être réaliste. On devait voir, palper les statistiques sur le terrain. Est-ce que le monsieur le ministre peut nous dire que ces avancées-là, ces croissances positives qu'il nous proclame, on peut les vérifier où? À Wamba, à Beni, à Kinshasa, parce qu'on ne comprend pas. Je ne sais pas si aujourd'hui, si nous devons peut-être parler du panier de la ménagère. Je ne sais pas si ça existe, peut-être, il fallait même qu'on puisse parler du sachet de la ménagère. Est-ce que les ministres proclament les chiffres pour satisfaire la communauté internationale, ou bien son gouvernement, ou bien, je ne sais pas. Parce que si les ministres étaient réels, ils devaient quand même nous dire clairement que l'indice est passé de tel à tel chiffre peut-être, aller voir sur le terrain et que sur le marché, la panier des ménagères est passée de telle quantité à telle quantité, mais là quand même on devait être concret. Et que les statistiques qu'il nous a présentées, ce sont des chiffres virtuels, c'est une croissance appauvrissante, une croissance, je ne sais pas, irréelle. Ce sont des chiffres imaginés, oui, je ne sais pas, par l'informatique, comme il y a les avancées sur les plans informatiques, oui. Et que c'est quelle équipe, c'est quel bureau qui a fait cette étude-là pour qu'on puisse nous lancer des chiffres comme ça, des chiffres,
oui,
clairs, des chiffres qui ne reflètent rien de la réalité sur le terrain.
Oui, Jean-Pierre, vous êtes à Wamba. Est-ce que vous pouvez faire un petit commentaire sur le taux d'échange aujourd'hui? Parce que tout le monde sait que depuis quelques temps, les taux est resté à 90. Donc, quelque part, il y a cette stabilité. Si aujourd'hui les gouvernements l'évoquent même dans ce bilan, c'est quand même quelque chose à apprécier et à encourager. Bon, dommage. Désolé parce que Jean-Pierre n'est plus en ligne. Clovis, vous êtes à Mbujimayi. Bonjour, Clovis.
Bonjour à tous les amis de la Radio Capi. Permettez-moi d'abord de féliciter le 11 national qui nous a apporté quand même le trophée du championnat d'Afrique des Nations.
Vous avez la parole, Clovis. Quel est votre avis par rapport à ce bilan dressé par le premier?
Par rapport à toutes ces statistiques données par le ministre, le premier ministre, Matata Ponyo, vraiment, moi, je suis pessimiste, puisque, et d'ailleurs, il a totalement raison, étant économiste, il n'a qu'à manipuler les statistiques et nous dire que non, Il y a tout d'abord la diminution de quoi, de la pauvreté. Il y a aussi quoi, il y a un problème du panier de la ménagère. Mais quand je trouve tout d'abord toutes ces statistiques, je trouve que non, ce sont des statistiques qui sont manipulées et qui ne reflètent pas la réalité au niveau du pays. Aujourd'hui, quand nous regardons tout d'abord au niveau de la stabilité, au niveau de la pauvreté, avec tout ce que notre premier ministre est en train de nous donner, c'est vraiment des mafias, des mensonges. Je me dis pourquoi les politiciens congolais, quand ils se mettent sur le podium, c'est pour tromper la population. Aujourd'hui, il n'y a pas vraiment de la réalité dans tout ce qu'on dit. Les réalités qu'on nous donne, ce ne sont que des mensonges. Alors, moi, je pense qu'on doit tout d'abord chercher à améliorer le quotidien du Congolais et nous parler des histoires qui sont fabriquées nuitamment et venir avec ça au devant du peuple congolais qui est nos citoyens. Donc, ça me fait moi mal. Puisqu'il est premier ministre, avec l'économie, toutes les statistiques manipulées, ça fait en sorte que non, quand on est économiste, on sait comment manipuler la population.
Oui, Clovis, vous êtes un bougimaï. Je crois que nous ne devons pas être trop superficiels. Il en vaut également pour tous ceux qui vont intervenir par après, là où vous êtes, parce que nous avons dit, quel est le regard que vous avez sur la réalité socio-économique? Qu'est-ce que vous voudrez constater qui vient effectivement contredire les bilans tels que présentés par les gouvernements?
Oui, ce que j'ai trouvé, c'est que tout d'abord un problème de la pauvreté. Quand on voit tout d'abord la population des Mbujimayi, et au niveau du panier ménagère, on vit par exemple au niveau d'un dollar par jour. Et quelqu'un qui vit d'un dollar par jour, vous me dites qu'il est dans de bonnes conditions et il y a une diminution de la pauvreté. C'est ainsi que sur le plan d'abord de l'emploi, il y en a qui vivent vraiment du bénévolat. Il n'y a pas du tout de l'emploi et on regarde tout d'abord certaines entreprises qui ne fonctionnent pas du tout. C'est ce qui laisse à nous faire quoi que non et tout ne marche pas. C'est ainsi que jusqu'à ce niveau-là, quand vous regardez la population de Mbujimayi, selon moi, qui vit au moins d'un dollar par jour, et il faut voir les conditions. On n'a pas de l'eau, on n'a pas du courant, ce sont des coupures intempestives, nous vivons de l'eau de la pluie. Et alors, vous allez nous donner des statistiques qui, sur le plan pratique, ne nous disent rien. Donc, je pense que nous devons quand même, à un moment donné, voir ce qu'on peut dire à la
population. Alors, est-ce que vous pensez comme les autres qui estiment qu'aujourd'hui, la situation, notamment de Mbujimayi, serait directement liée au fonctionnement à plein régime en son temps de entreprises telles que la MIBA qui en fait donnait un peu de bouffée d'oxygène dans la vie, dans la société, dans l'environnement, pour que finalement les gens puissent ne plus que vivre au-delà, hein, en dehors de cette pauvreté. Aujourd'hui, cette entreprise ne fonctionne pas. Cela a occasionné également cette crise que nous décrions au niveau de Mbujimayi notamment, hein, qui en fait donne lieu à une pauvreté qui ne dit pas son nom.
Ah oui, certainement, puisqu'avec quand la MIBA fonctionnait dans les temps, on trouvait que beaucoup de gens étaient bien payés, on trouvait qu'il y avait vraiment de rancœur. Mais aujourd'hui, et surtout que la MIBA se trouve même au niveau du Kassai central, au niveau même du Kassai de l'autre côté, vous trouvez que non, aujourd'hui, avec la fin de la MIBA, tout ne marche pas bien, surtout que Mbujimayi est considérée comme la capitale mondiale du diamant. Mais si on ne vit pas du diamant, on va vivre encore de quoi? Alors je crois qu'avec la chute de la MIBA, ça fait aussi en sorte que non, aujourd'hui la population qui était habituée à bien manger et qui était habituée à vendre quand même du diamant et faire quand même de la bonne ambiance, aujourd'hui cette population-là ne sait pas quoi faire. Ainsi que moi je pense aussi qu'il faut relancer certaines entreprises. Si aujourd'hui la MIBA fonctionne normalement et qu'il y a beaucoup de personnes qui sont engagées là et qui sont mieux que eux, je pense que JR, nous n'allons pas déplorer aujourd'hui la pauvreté qui est vraiment accrue. Nous n'allons pas déplorer toutes les statistiques-là. Mais je sens que la MIBA jusque-là, on change toujours de comité de temps en temps, il n'y a pas de changement. C'est ainsi qu'aujourd'hui, là, vous trouvez que non, la population du Kassai oriental a aussi des problèmes au niveau de la pauvreté et ne se retrouve pas du tout puisqu'elle était déjà habituée aux diamants, aux minéraux. Et aujourd'hui que les minéraux se font rares, hein, on devient déjà, on tombe dans la famine, on ne sait pas quoi faire. Et comme il n'y a pas du tout des emplois au niveau, par exemple, des jeunes qui sont lancés sur le marché, qui viennent fraîchement de l'université, mais dire, vous voulez quoi? C'est ainsi que juste là, on est en train de jeter sur le marché d'emploi beaucoup d'étudiants, beaucoup de diplômés, de licenciés, mais qui n'ont pas de travail. C'est ainsi qu'aujourd'hui là, la pauvreté, les statistiques présentées par notre premier ministre ne reflètent pas la réalité sur le terrain, et surtout au niveau du Kassai oriental, pourquoi pas aussi au niveau de la République démocratique du Congo. Nous voyons ce qui se passe dans d'autres provinces, c'est catastrophique. Regardez aujourd'hui à Lubumbashi, avec les entreprises là-bas minières, il y a aussi des secours de l'autre côté. Il faut chercher maintenant à appliquer une bonne politique. Moi, je pensais peut-être que Matata Tamponyo, étant un économiste, il pouvait nous faire quand même de la bonne politique, mais aujourd'hui, ce ne sont que des statistiques qui sont manipulées et on ne sait pas où est-ce que nous irons avec tous ces maçons et des magias. Je me pose des questions, où est-ce que nous serons avec le pays, puisqu'aujourd'hui, regardant la population congolaise et le nombre accru, vraiment, il faut vraiment faire quelque chose. Irons avec la croissance démographique, nous allons commencer à nous manger entre nous.
Voilà, merci beaucoup, Clovis. Nous aurons peut-être à éclairer la lanterne des uns et des autres avec notre invité qui va nous rejoindre d'ailleurs d'un moment à l'autre. Là où peut-être nous allons évoquer des objectifs qui ont été assignés par ces gouvernements. D'abord, en commençant par Matata 1 et Matata 2 par la suite, qui s'est fixé donc 6 objectifs susceptibles de conduire les trésors publics en 4 ans, depuis 2012, donc, à réaliser 48 milliards de dollars en ressources ordinaires. Est-ce qu'on en est là aujourd'hui avec 85% à 63%, une baisse très significative et très sensible par rapport à l'indice de pauvreté? Donc on peut dire, est-ce que le gouvernement a-t-il atteint cet objectif? Nous allons y revenir. Merci beaucoup Clovis de toutes ces préoccupations liées notamment à la pauvreté que vous avez constatée au niveau de Mbujimayi, donc du quartier oriental, qui serait, comme vous l'avez dit et comme le disent aussi certains observateurs, à ce manque de fonctionnement en plein régime de l'AMIBA. Voilà, merci beaucoup. Hubert, vous êtes à Kinshasa. Bonjour Hubert.
Oui, bonjour Julien.
Vous avez la parole Hubert.
Oui, merci. Avant toute chose, un mot sur les léopards, comme tout le monde d'ailleurs. Ces léopards qu'il faut vraiment féliciter, que nous attendons vraiment de le bois ouvert cet après-midi à Kinshasa. Bon, quant au sujet du jour, ce bilan-là, moi je pense que c'est un bilan ni figue ni raisin. Il faut reconnaître quand même, ce gouvernement, il a réussi la coordination de l'action gouvernementale. On sent que c'est un gouvernement qui a vraiment un chef à sa tête. Ce gouvernement a réussi la maîtrise de l'inflation, il a réussi la stabilité du taux d'échange, et il a réussi à canaliser les recettes publiques. Enfin, c'est tout le point positif. Mais il a aussi réussi ce qu'on appelle la croissance, mais c'est là le problème. Parce que cette croissance que ce gouvernement réalise, il réalise sur un secteur qui n'est pas porteur, qui n'est pas créateur d'emplois. Donc, la conséquence, c'est qu'il n'y a pas d'impact sur le social de la population. Alors, qu'est-ce que nous avons? Donc, ça veut dire qu'il n'y a pas d'augmentation du pouvoir d'achat de la population. Alors, pourquoi cette croissance n'est pas réalisée n'est pas palpable? C'est tout simplement parce que on s'est canalisé à créer la croissance sur un secteur qui n'est pas créateur d'emploi comme les mines. Et tout le monde sait que ce secteur-là, contrairement à d'autres secteurs à développement durable comme l'agriculture, n'est très pas stable et durable. Le problème, c'est que dans ces secteurs, les gens sont soumis au choc exogène, c'est-à-dire extérieur à notre maîtrise. La preuve, il suffisait seulement d'une baisse des prix des matières premières pour que tout soit remis en cause. Donc, encore qu'il nous faut aussi un débat un jour, je vous le demanderai, sur ces secteurs, car nous ne sommes plus producteurs, il faut bien le savoir. Nous ne nous contentons que des taxes que ces entreprises veulent bien nous payer. Donc voilà, quand on voit tout ça, on se dit, voilà, à quoi faire une croissance qui n'a pas d'impact sur le social? Donc voilà, donc ce qui nous pousse à dire qu'il est à la limite un peu ridicule de se réjouir de gains de quelques places sur le taux d'indice de pauvreté. Donc voilà, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, il faut recadrer les choses. Il faudra que le Premier ministre comprenne que cette croissance-là qu'il réalise, c'est vrai, quand on voit ce qui se passe ailleurs, dans d'autres pays, c'est vrai, il les réalise. Mais il les réalise sur quel secteur? Il faut qu'il se retourne vers le secteur à créateur d'emplois, donc le secteur à développement durable, comme l'agriculture et autres. Donc voilà le gros problème que nous avons aujourd'hui. Moi, je comprends la révolte même de certains compatriotes, parce que évidemment, on peut juger l'action d'un gouvernement sur son impact sur le développement de la société, sur le bien-être de la population.
Oui, oui, c'est vrai que la réduction de la pauvreté, c'est tout un processus. Et si nous en tenons d'ailleurs même à certains objectifs de millénaire pour le développement, qui aujourd'hui s'est transformé en ODD, mais on se rend compte que s'inscrivant dans ce processus, il y a quand même un temps donné pour que finalement on puisse sentir le remplissage du panier de la ménagère. Depuis 2012, en commençant par le Matata 1, jusqu'à aujourd'hui, ça fait plus de 4, donc plus de 3 ans, donc 4 ans exactement, la population ne sent pas encore quelque chose du côté du remplissage du panier de la ménagère. À quoi serait dû cela?
Non, non, c'est dit tout simplement ce que je viens de dire. C'est dit à l'orientation qui a été prise. Pendant que, évidemment, comme on dit, la plus belle femme n'est pas offrie que c'est là, pendant que le gouvernement s'est canalisé d'abord sur le secteur minier, parce qu'à l'époque, le secteur minier a apporté beaucoup de choses. Évidemment, c'est pour ça que je demande même un débat sur ça. Mais aujourd'hui, le secteur minier ne rapporte pas grand-chose. Avant, à l'époque de l'apogée de la Gécamine n'a jamais dépassé 450 000 tonnes de cuivre, par exemple. Mais à cette époque-là, le minerai contribue à 62% du budget national et à 27% du produit intérieur brut. Mais aujourd'hui, nous produisons plus d'un million de tonnes de cuivre, mais le minerai ne contribue qu'à 9% du produit intérieur brut. 9% du budget national et à 3% à peu près du produit intérieur brut. Donc il y a un problème. Ça veut dire que le minerai aujourd'hui ne nous rapporte pas ce que ça nous rapportait avant. Donc aujourd'hui, on ne peut plus baser sa croissance sur ce secteur-là. Il faut prendre notre orientation, la diriger, donc diriger cette croissance vers des secteurs à développement durable comme l'agriculture. Et là, on va essayer. Évidemment, je félicite quand même ce travail qui a été amorcé avec l'histoire de Moukamalo et autres. Nous espérons qu'on va aller bien vite sur cette direction-là pour permettre à ce que chacun puisse avoir au moins un boulot, que la majorité d'entre nous puisse avoir un boulot pour que nous puissions quand même réduire un peu la pauvreté.
Voilà, merci beaucoup Hubert d'avoir appelé à Kinshasa. On va prendre Joséphine. Madame Joséphine est à Boston. Madame Joséphine, bonjour. Et bienvenue dans la
parole. Bonjour Radio Capi. Merci de m'avoir passé la parole. Je vais dire ceci. Je vais remettre la discussion sur un cadre, sur une fenêtre de temps donné. Quand on dit la croissance économique, normalement, le Premier ministre est économiste, je suis économiste. La croissance économique est mesurée par, c'est pendant une année seulement. Il ne faut pas aller 2012, parler de 2005 aux 5 chantiers. Non, nous parlons d'une année, l'année passée. Ok, et puis il faut aussi simplifier le débat. La croissance économique, pour une définition simple, pour que
pour que le commun des mortels comprenne.
La croissance économique désigne la variation positive de la production de biens et de services dans une économie. Ça, la population va nous comprendre. Maintenant, nous devons nous poser la question. Quelle a été la production et le gain de services qui ont été variés? Qu'est-ce qu'ils ont produit? Quels sont les services que le Premier ministre a produits? Nous savons qu'en économie, la croissance économique est mesurée par rapport à la monnaie. Moi, je crois que Mata Tampogne, le Premier ministre, lui, voit seulement la monnaie qu'il a maîtrisée. Non, ce n'est pas ça. Ce n'est pas ça, c'est un point seulement. Le Congolais que vous voyez, il n'y a plus moyen de les tromper. Parce qu'ils sont en train de vivre jour pour jour la réalité de ce qu'ils vivent. Monsieur le Premier ministre, il faut être franc. D'abord, premièrement, vous ne venez pas avec des statistiques. On ne nous dit pas c'est quoi qu'il a fait, quel service, quelle production.
Oui, mais entre autres, si vous avez suivi les bilans qui ont été dressés, Madame Joséphine, je prends juste le secteur de l'emploi. Le Premier ministre s'est félicité d'avoir créé au moins pour cette année 50 000 emplois, contrairement à ce qu'il avait annoncé avant en 2013-2014, que chaque année, on va créer 100 000 emplois. Mais cette année 2015, il n'a accepté que 50 000.
Non, non, je parle des statistiques, mon cher ami. Nous ne pouvons pas... Monsieur le Premier ministre, où sont les statistiques? Où est-ce qu'il est? Parce que nous
vous renvoyons, madame.
On continue à avoir la
madame. Oui, madame, nous vous renvoyons.
Les gens qu'on a connus il y a une année, en 2014, en 2015, ils n'ont pas eu de boulot. Ils n'ont pas eu de boulot.
Oui, madame.
Parce que moi, je viens de Lubumbashi. Mais les gens ne travaillent pas. Il n'y a pas l'emploi qui a été créé. Tout ça, c'est rien. Moi, qu'il amène des statistiques. Qu'il amène des statistiques.
Oui, je crois
qu'il amène des statistiques. Il n'y a pas un trait.
Oui, mais vous pouvez consulter...
Qui a créé l'emploi? Pardon?
Vous pouvez consulter le site de la primature.
L'emploi, il ne peut pas dire l'emploi, les gens qui vont domasser. J'ai vu qu'il y avait augmentation des plats, des gens qui vendent au marché. Il y a augmentation des gens qui vendent les crédits de téléphone. Ça, ce n'est pas créer l'emploi. Créer l'emploi, c'est aller, par exemple, au Kivu, construire une entreprise qui va traiter le coltan comme on traite à l'amibe, on traite le diamant, à la gétamine, on traite le cobalt et le cuivre.
Voilà, merci beaucoup, Madame Joséphine. 081-890-6315 pour votre intervention en direct. Et si vous nous rejoignez, donc bienvenue, la parole aux auditeurs.
Votre radio vous propose chaque après-midi, du lundi au vendredi, 3 heures de découverte. De 13h à 16h, partez à la découverte de recettes, de femmes et des hommes qui se distinguent. Suivez nos reportages, vie quotidienne, paroles d'enfants, regard d'avenir et point de vue des jeunes. Laissez-vous guider par des balades en zigzag, un zeste de culture et beaucoup de musique. Nous répondons également à vos questions. 13h, 16h, découverte, le total de l'après-midi sur Radio Okapi. Parole aux auditeurs.
Nous avons M. Grégoire Bakandeja. Professeur Grégoire Bakandeja, vous êtes avec nous? Professeur, vous êtes avec nous en ligne? Voilà, professeur, vous êtes avec nous? Vous êtes en direct, professeur? Voilà, on a des petits soucis avec la ligne de notre invité. Je crois que le temps que les choses s'arrangent du côté de la communication, on va lire quelques messages. Il y a les auditeurs qui nous ont écrit. Il y a Alain Bonnejoie qui dit ceci. Il est certain vrai que notre économie a renoué avec la croissance économique depuis 2002. Et cela se consolide année après année. Et bien que cette expansion soit fortement secouée par des facteurs exogènes, cependant, nous ne devons pas perdre de vue que cette croissance économique est jonchée des éléments qui l'éloignent de l'objectif d'amélioration proportionnelle des conditions de vie de la majorité de nos concitoyens. Elle se juxtapose avec une croissance démographique qui évolue en progression géométrique et aussi des inégalités plus que proportionnelles. Il serait scientifiquement suicidaire si l'on ne reconnaissait pas ces avancées engagées et également de considérer les moyennes statistiques pour étayer cette croissance. Voilà. Alors, Christopher Poutou, je suis un peu déçu par notre gouvernement de ce côté-là parce que pratiquement sur le terrain, nous ne voyons rien. Jean-Pierre Mandel dit notre gouvernement a un problème sérieux suite à l'inadéquation des chiffres bruts et théoriques. Jérémy Moissa de Bukavu, au sud Kivu, le bilan économique est donné, monsieur Matata Ponyo, c'est pour la capitale Kinshasa, qui ne parle pas pour le Congo dans son entièreté. On va relancer à nouveau professeur Bakandeja Grégoire. Professeur, vous êtes avec nous?
Le professeur n'est pas appelé, pas chez moi.
Voilà, je crois qu'il y a une autre personne qui est en ligne. Alors on va prendre Émile qui est à Kimpessé. Émile, vous êtes à Kimpessé, bonjour.
Bonjour, salut, bonjour à tous les auditeurs.
Voilà, Émile, vous avez la parole.
Bon, on sent que le premier ministre, le statistique qu'il a donné, nous ne vivons pas ça sur terrain. Alors je ne sais pas pourquoi, sur base de quoi, parce qu'il n'y a pas d'emploi. Par exemple, ici, à Kipessé, non. Nous ne vivons pas ça. Nous ne vivons pas ça. Alors, je ne vois pas pourquoi. Je ne sais pas si c'est pour satisfaire peut-être la communauté internationale ou se satisfaire d'eux-mêmes. Je ne sais pas à quel se taire. Il y a ce croissance économique. Je ne sais pas.
Voilà, Émile, à votre niveau, vous pensez comme les autres que aujourd'hui, le fait que le panier de la ménagère n'est pas rempli, c'est que les statistiques, les données qui sont avancées ne sont pas réelles.
Oui, oui. C'est sûrement de ça parce qu'il n'y a pas d'emploi. Comment le panier de la ménagère doit fonctionner. Alors, je vois la population, genre, ici, à qui paie son vie, on vit sur $1 par jour. Je vois pas pourquoi, je vois pas, nous ne vivons pas la réalité.
Voilà. La réalité, merci beaucoup. Le temps de prendre Michel qui est à Lubumbashi. On va lire les messages de Lomboto Bongo Dani. Qui dit que le Premier ministre ne doit pas affirmer seul le bilan de son gouvernement pour l'année 2015, que l'indice de pauvreté est passé de 85 à 63%, et pourtant le peuple congolais subit un chômage catastrophique. Si cela a été pour répondre à ceux qui avaient dit que la croissance économique de la RDC n'est pas inclusive, nous disons qu'il s'est trompé car son bilan est totalement négatif. Alors Michel, vous êtes à Lubumbashi, bonjour. Michel, vous êtes avec nous? Alors, décidément, on a des petits soucis avec la communication aujourd'hui. Michel, vous êtes avec nous en ligne. Voilà, on va continuer à lire les messages. Il y a Derek Kazadi. Je regrette ce genre d'affirmation qui est en train, en fait, qui donne lieu à une certaine moquerie de la population. Jean-Louis Béa de Kadanga dit ceci, chez nous, les autorités luttent pour ajouter le chômage. Raison pour laquelle le président du bureau provisoire a révoqué plus de 100 agents à l'Assemblée provinciale du Kasaï central. Didier Serge Moustanga, bien quand une autorité ne s'est pas acceptée, mais au contraire, elle se jette de fleurs, il est lié que l'on soit inquiet, c'est toujours un bilan positif selon lui. Chaque année, 100 000 nouveaux emplois, et curieusement, l'année passée, il est parti des 100 à 48 000. 63%, c'est toujours gros à faire. Donc, les réponses à ceux qui les critiquent n'ont guère de place dans ces actions, mais encore plus les travails, parce qu'en réalité, son gouvernement n'a jamais résolu, même à 20% la situation sociale des Congolais. Mais je retiens que M. Matata est un bon élève de la Banque mondiale et du FMI. Voilà, on va tenter pour une dernière fois le professeur Grégoire Bakandéja. Professeur, bonjour.
Oui, bonjour, Pierre.
Voilà, professeur, on a eu des petits soucis pour vous avoir ce matin, pour répondre à cette thématique. Nous parlons, comme je l'ai dit, du bilan qui a été dressé par le premier ministre. Le bilan qui fait état donc d'une révision à la baisse, notamment de la croissance, disons de l'indice de pauvreté, de 85 à 63%. Alors, certains observateurs estiment que ces bilans tels que dressés, c'est juste pour la consommation extérieure, notamment pour la Banque mondiale ou encore les FMI. Et mais d'autres, par contre, disent que voilà, on sentirait mieux ces bilans si jamais c'était directement lié au remplissage du panier de la ménagère.
Je comprends tout à fait les préoccupations des auditeurs, j'ai bien suivi, ces préoccupations sont réelles, mais lorsqu'on juge du bilan d'un gouvernement, on part de l'existant au moment de la prise des fonctions. Comme vous l'avez dit, que le Premier ministre a pris les fonctions en 92 jusqu'en 94, à travers les indicateurs de gestion, on peut alors apprécier s'il y a eu une croissance ou une amélioration de la qualité de la vie au cours de la période concernée. Mais ce qui est important, c'est de restituer un peu le débat. C'est pas le gouvernement qui doit créer des emplois. Je crois que les gens se trompent un peu d'époque, l'époque où l'État intervenait dans la vie économique pour réguler tout, créer des entreprises. Cette époque-là est déjà révolue. On est, dans le cadre de la globalisation financière, dans une économie ouverte qui implique que le rôle de l'État soit celui d'encadrer les acteurs économiques qui, en principe, créent des richesses. C'est vrai, l'État est un de ces acteurs-là, mais il faut parler sur l'État. Et l'économie porte sur quoi? L'économie porte sur ce qui est produit, ce qui est vendu, ce qui est échangé. Et donc, ça porte sur le marché. Or, ce marché est ouvert. C'est la raison pour laquelle, au niveau du gouvernement, on doit tout faire pour que les acteurs économiques évoluent dans la formalité en respectant les règles pour que l'État recouvre suffisamment des ressources financières lui permettant de répondre aux besoins de la population, tout au plus en orientant. Alors, il y a cet aspect-là qu'il ne faut pas négliger. Un des auditeurs a parlé aussi de la diversification de l'économie, puisqu'il a parlé du secteur agricole, mais il n'y a pas que le secteur agricole, il y a plusieurs secteurs qui peuvent, si c'est une action combinée, cumulée, peuvent permettre de résoudre les problèmes, et les problèmes sont nombreux. Et il ne faut pas oublier que l'économie nationale est influencée par l'économie internationale. Si au niveau international, les choses ne marchent pas, tout le monde sait qu'il y a la crise partout, même les pays développés et les pays émergents qui les ont suivis, sont dans une situation de crise. Le Congo est dans ce monde-là, et donc les répercussions de la crise internationale jouent en interne. C'est pourquoi en interne, on doit prendre toutes les dispositions pour pouvoir orienter l'action de l'économie, et notamment en organisant les régies qui procurent à l'État les moyens de sa politique. Or, on sait que le potentiel fiscal est assez important, mais les ressources ne correspondent pas à ce potentiel-là. Voilà comment il faut envisager les choses. Moi, je dirais que, au regard des indicateurs de gestion, encore que les statistiques, bon, on peut toujours émettre
des statistiques.
Au regard des indicateurs de gestion, au moment de sa prise de fonction, par rapport aux dernières années, avant la crise qui a commencé à la fin de l'année 2015, il y a un léger mieux, mais il ne faut pas attendre tout du gouvernement, il faut que dans le pays, on trouve des acteurs économiques qui prennent des risques. Or, toute l'économie du Congo est fondée sur les investissements des étrangers. Les Congolais, eux, ne font rien. Ils attendent que les étrangers viennent investir pour eux. Mais l'investissement, c'est un risque. Donc, vous voyez, il y a plusieurs paramètres qu'il faut mettre en jeu pour apprécier l'action d'un gouvernement, mais un gouvernement ne peut pas tout faire. Il y a aussi les citoyens de ce pays qui doivent se prendre en charge, prendre des risques, comme le font les étrangers. Et tout ça dépend aussi de la fiscalité qui est appliquée dans le pays. Ici, il y a plusieurs niveaux de fiscalité. Nous avons, par exemple, au Congo, une fiscalité assez prioritaire. Vous avez la fiscalité nationale, vous avez la fiscalité provinciale, vous avez la fiscalité locale. Toutes ces fiscalités-là, si elles sont appliquées dans un peu de confusion, ça
donne des résultats.
Ça donne des résultats au niveau, et un État ne doit pas fonctionner simplement pour assurer la vie des services. C'est peut-être la grande chose qu'on peut faire, les services publics et les institutions. Il doit aussi fonctionner pour pousser les gens à développer l'activité économique.
Alors, professeur Grégoire Bakandéja, c'est vrai, pour aller vers le statut des pays émergents, les premiers ministres avaient pris un engagement, en tout cas préparer la RDC au statut des pays émergents, et pour ce faire, il s'est fixé 6 objectifs susceptibles de conduire les trésors publics en 4 ans, donc depuis 2012 qu'il est entré en fonction, à réaliser 48 milliards de dollars en ressources ordinaires. Et encore, vos propos, il y a plusieurs paramètres qui entrent en ligne des comptes pour atteindre ce genre d'objectifs, notamment la maîtrise d'inflation, bien canaliser les recettes publiques et aussi la stabilité du taux d'échange, pour ne citer que cela. Mais au regard de tous ces indicateurs, le taux d'échange qui est stable, la maîtrise d'inflation, et puis on est quand même arrivé à canaliser les recettes publiques, mais on est loin d'atteindre ce chiffre de 48 milliards.
Oui, c'est tout à fait normal. Vous savez que le Premier ministre a engagé, la première réforme, c'était le coulage de ressources. Vous savez que dans le pays, la corruption dans les services de l'État, notamment les services de gestion de recettes, cette corruption-là est à un niveau qui ne permet pas à l'État de capter toutes les recettes qui lui reviennent. Avec certains opérateurs, les grands opérateurs qui ne payent pas, vous avez aussi les questions liées au code minier, par exemple, le code des investissements, qui accorde trop d'exonération à des opérateurs économiques, malheureusement, ce sont des étrangers, qui rapatrient presque tout, il n'y a pas de contrôle. Donc, ça fait une diminution des ressources pour l'État. Donc, il y a eu un effort qui a été fait dans l'assainissement des structures de l'État, des institutions, mais il reste un effort aussi à faire pour assainir les mentalités, les mœurs des personnes qui travaillent dans ces secteurs qui génèrent des ressources de l'État. Donc, ça pose quelques petits problèmes. Mais il faut savoir que l'excès de la pauvreté, quoi, de la fiscalité interne comme de la fiscalité aux frontières. Il faut des réformes pour permettre à l'État d'avoir les moyens de sa politique. Mais ce que je dois vous dire, c'est que l'époque où l'État pouvait tout faire, cette époque-là de l'État-providence, est révolue. Il faut que les gens se pénètrent de ce changement-là de paradigme pour aller dans le système actuel qui est globalisé, où on laisse les privés agir. Et donc, il faut que nous ayons une classe moyenne des Congolais qui doit prendre des risques parce que les ressources de l'État proviennent des activités qui sont réalisées sur son territoire, principalement par les nationaux. Il ne faut pas attendre que ça vienne seulement des investisseurs étrangers.
Alors, on va repasser de l'autre côté du standard. Professeur, nous vous gardons en ligne. Odon, vous êtes à Kinshasa. Bonjour, Odon. Odon, vous êtes avec nous ?
Oui, je vous reçois. Je vous reçois très bien. Je vous écoute.
Alors, vous venez de suivre tout à l'heure le professeur qui parlait de l'époque de l'État-providence qui est revolu aujourd'hui. L'État ne doit pas tout faire. Les bilans présentés par Matata, c'est vrai pour certaines personnes, semblent être de loin une réalité. Aujourd'hui, c'est vrai, il faudrait aussi une participation citoyenne de la population en ce qui concerne les efforts à pouvoir aller vers le développement de notre pays. Est-ce que vous partagez cet avis, Odon?
Pas du tout, négatif. Vous savez que les Congolais, nous sommes spécialistes en théorie scientifique. On nous a parlé de taux de croissance positif à deux chiffres. On nous a parlé de la stabilité de taux d'échange. On nous a parlé
de la création
de 50 000 emplois.
De l'environnement, oui.
Tout ça fait bien beau pour entendre, c'est de bons discours. Mais concrètement, les commerces mortels, comment vit-il ces réalisations-là, ces réalités, ces performances économiques? C'est nul.
Est-ce que vous n'avez pas constaté, vous, Odon, est-ce que vous n'avez pas constaté l'assainissement, en tout cas, le climat des affaires? Est-ce que vous n'avez pas remarqué, comme les autres, la stabilité du taux d'échange? Et pour aller plus loin, la maîtrise de l'inflation, ainsi que les recettes qui sont bien canalisées aujourd'hui?
C'est vrai, on a maîtrisé les taux d'inflation, les taux d'échange, mais ils profitent à qui? À qui? Parce que normalement, ça devrait avoir un impact sur la vie quotidienne du Congolais, du peuple, des mortels. Je vais vous donner un exemple. À l'époque coloniale, on avait ce qu'on appelait, c'était pour la TEPSI, son travail prévention sociale pour l'indigène, qui étudiait tous les paramètres pour fixer le SMIG. Donc, on prenait une famille moyenne de 6 personnes, papa, maman et 4 enfants. À partir des données réelles sur le terrain, l'État fixait les SMIC pour que l'homme puisse vivre décemment. Aujourd'hui, comment vivent les Congolais? On a stabilisé le taux d'échange. On a stabilisé ceci, cela. Comment vivent les Congolais moyens? C'est ça. C'est à partir de ces éléments concrets que nous allons juger le gouvernement s'il est en train de réussir ou pas. Ne soit pas de définition théorique telle qu'on est en train de nous les donner.
Et qu'est-ce que vous avez remarqué concrètement qui vient contredire ce bilan?
Justement, c'est les études quotidiennes du Congolais.
Lesquelles, par exemple, vous êtes à Kinshasa?
Les Congolais, aujourd'hui, je prends le cas d'un Kinois.
Oui.
Quel est ce Kinois qui est capable de faire étudier ses enfants à l'université? Quand un fonctionnaire touche 97 000 francs congolais, alors à l'université, tout va bien. Quel est celui qui parle pas sur son professeur, qu'il puisse me contredire? Ils vont se syllabus à combien? Mais quel pays va à combien? Parce que tout là-bas est monnayé. Les frais académiques à l'université de Kinshasa, c'est aux alentours de $300. Et sans compter tous les frais par pirates qu'ils créent là-bas. Quel est ce citoyen congolais moyen qui préfère étudier ses enfants à l'université? C'est un seul exemple parmi tant d'autres. Quel est ce citoyen congolais moyen qui préfère se faire soigner à l'hôpital général de Kinshasa? Voilà des cas concrets, faciles, pour juger les performances du gouvernement. Nous ne demandons pas autre chose que les Congolais soient en mesure de vivre décemment.
Alors, ceux-là qui évoquent le caractère processus pour que, en fait, que la croissance économique soit réellement inclusive, puisque nous puissions, nous tous, sentir ça, hein, que cela atteigne quand même le remplissage du panier de la ménagère. C'est tout un processus, donc il faut attendre un peu, j'ai encore eu un peu de temps.
Mais oui, c'est-à-dire que c'est vrai, c'est un processus, mais on doit avoir déjà des indices qui indiquent que nous évoluons vers ces résultats-là. Mais concrètement, on ne voit pas les indices qui nous conduisent par là. Parce qu'on a parlé tout à l'heure de la création d'une classe moyenne congolaise. Mais cette classe ne pouvait être créée qu'à partir de l'épargne qu'un Congolais qui travaille peut dégager de son salaire. Il y a combien de Congolais qui épargnent? Que les besoins du Congolais sont supérieurs à ce qu'il gagne. Pas un Congolais peut épargner pour que demain il puisse créer une petite unité de production et devenir aussi entrepreneur. C'est impossible. Surtout, messieurs, les gens arrivent à se créer des entreprises à partir de leurs épargnes, parce que la banque ne peut accorder un crédit à quelqu'un que à celui qui a déjà quelque chose. Mais si on n'a rien, comment la banque peut-elle accorder le crédit aux Congolais? comme je dis que tout ça, ce sont des bonnes théories, mais essayons de les mettre en pratique.
Merci beaucoup, donc, d'avoir appelé de Kinshasa. Michel, vous êtes à Lubumbashi. Bonjour et bienvenue dans Parole des auditeurs.
Bonjour, UGR. Bonjour aussi à l'Institut. Bonjour à tous les auditeurs de la radio.
Quel est votre avis par rapport à cette thématique?
Merci. Par rapport au bilan du gouvernement, UGR, bon, on ne peut pas être pessimiste jusqu'au fond. Après tout, depuis que l'exécutif Massad avait installé, je t'ai dit d'abord qu'il y a certaines stabilités. Là, on ne peut pas se plaindre. Tel que le cas de Michel qui vous parle. Michel a besoin, par exemple, d'ouvrir une entreprise au niveau, je peux prendre même à un village qu'on appelle Kibangula, par exemple. Mais Michel, c'est un enseignant. Michel vous touche par mois, prenons un exemple de 80 000 francs congolais. Un enseignant. Avec ces 80 000 francs congolais, croyez-vous que Michel pourra ouvrir quelle année l'entreprise pour engager sur d'autres personnes. Bien sûr, ma tante apporte toute volonté. Ce qui nous manque au Congo, c'est le suite. Il y a beaucoup de théories. Vous pouvez créer, moi, je ne sais pas, de n'importe quelle loi, vous dites qu'il y a des stabilités, il y a ici, mais on regarde d'abord la vie de la population congolaise. Si aujourd'hui, vous regardez comment les gens vivent, nous avons d'abord des difficultés pour seulement vivre ici, à manger ce qui est. Donc, ce qui est là, on ne peut pas donner la charge toujours à Matata Fogno, mais Matata Fogno doit regarder, est-ce que ce bilan ici, il y a un changement dans l'enceinte de basse population ici congolaise, ou soit qu'il n'y en a pas, il n'y en a pas, il faut seulement des moyens. Mais ce que nous voulons, nous avons des volontés de créer même des entreprises, de faire autre chose. Mais ce que les Congos nous donnent, vraiment, ça n'anticipe pas. Ça n'anticipe pas hier. Et ce que je demanderais aussi à la population congolaise, nous devons avoir une bonne volonté. Le bilan qu'on est en train de publier là, c'est à partir de notre contribution. Avec le P, tel que moi, je suis enseignant, je suis en train de voir un service, moi, c'est pas des directions générales, on ne sait pas les impôts, autre chose, on ne sait pas quoi, qui passent là récupérer souvent un petit pourcentage de mon petit salaire d'abord, que je suis en train de divorcer avec ça, en train de récupérer dans les trésors publics. Est-ce que vraiment au Congo, il y a les suivis? Et si cette population de 70 millions de populations, si tout le monde contribue avec ce qui touche là, est-ce qu'aujourd'hui on devait dire que le trésor public n'a pas cette capacité d'ouvrir des entreprises au Congo? Et ce que je demanderais est que nous, les Congolais, que nous ayons quand même une bonne volonté et le Congo ira toujours de l'avant. Ce n'est pas d'un coup comme ça que le Congo peut changer. Ce n'est pas ça hier.
Merci beaucoup. Ensemble. Merci beaucoup, Michel. 081-890-6315 pour votre intervention en direct.
Chaque vendredi de 19h15 à 20h, Radio Capit vous propose la tribune de la presse. Analyse, explications et débats autour de l'actualité de la semaine avec les journalistes de la presse écrite et audiovisuelle. La tribune de la presse, vendredi de 19h15 à 20h, un résumé complet de l'actualité de la semaine. Une émission à réécouter sur internet, radiocapit.net.
Parole aux auditeurs, pour participer, 081 890 63 15 ou par internet pa@radiocapi.net.
Parole aux auditeurs, J.R. Nguyen.
Professeur Grégoire Bakandeja, vous êtes avec nous, notre invité de ce jour dans Parole aux auditeurs. Vous venez de suivre les uns les autres, mais c'est vrai qu'il y a beaucoup d'inquiétudes qui se sont dégagées par rapport à cette thématique. Mais d'autres se posent du moins la question de savoir aujourd'hui, faudrait-il attendre combien de temps pour que on puisse ressentir, en fait, pour qu'on puisse tendre réellement vers le remplissage du panier de la ménagère. Faut-il attendre 5, 10, 15 ans, parce que nous sommes déjà dans un processus de la croissance économique, ou carrément, il y a quand même, sur le plan scientifique, avec des théories économiques, il y a quand même des limites pour savoir à quel niveau il y a quand même cette variation, qu'on peut déjà constater quand même cela.
Monsieur Gilles, je crois qu'il est important de rappeler que nous devons éviter la culture de l'immédiateté. Comprenez, la culture de l'immédiateté, c'est qu'il y a des efforts qui sont fournis, on veut avoir des résultats à court terme. Le Congo a eu sa période de gloire vers les années 70 jusqu'aux années 73. Il y a eu la crise, après il y a eu les pillages, nous avons eu des guerres, le pays a été détruit, toutes les infrastructures avaient été détruites. Il faut repenser tout ça. C'est un processus, le processus a commencé seulement avec Matata, donc avant Matata il y a eu des actions qui ont été menées par son prédécesseur, avant celui-là il y a eu la période de transition. Donc on a essayé de réunifier le pays, pour réunifier le pays, il faut avoir des moyens. On a détruit les infrastructures, il faut les reconstruire. Donc c'est un travail qui doit se faire sur une période d'au moins, je crois que c'est une période à long terme, il faut compter au moins une dizaine d'années. Vous comprenez? Et puis, les ressources de l'État proviennent de quoi? Mais elles proviennent des activités qui sont réalisées par les personnes physiques et les personnes morales. Nous avons toujours l'habitude de dire que nous sommes 70 millions d'habitants. Mais il y a combien de citoyens congolais qui paient des impôts? Vous pouvez compter, il y a combien de contribuables sur les 70 millions d'habitants? Si on prend peut-être qu'il y a 35 à 40% de cette population qu'on peut considérer comme étant population active, donc à l'âge de travailler, mais combien payent des impôts? Les personnes physiques ne payent pas d'impôts. Les personnes morales s'organisent, sont des sociétés qui maquillent les résultats, etc. Donc il y a un effort continu lorsqu'on parle de la gouvernance et gouvernance aussi pour faire tout, renflouer les caisses de l'État, récupérer l'argent de l'État qui se retrouve dans les poches des individus. Et c'est à partir du moment qu'on peut faire une redistribution des richesses. On ne va pas redistribuer des richesses pour augmenter les salaires s'il n'y a rien à la cagnotte. Vous voyez, c'est ça le problème. Il n'y a rien dans la caisse de l'État, mais comment on va redistribuer les ressources si celles qui entrent dans le trésor ne sont pas suffisantes pour résoudre les problèmes. Nous sommes responsables, nous devons prendre conscience que, sans un effort collectif, une prise de conscience collective, nous n'allons pas nous en sortir. Le gouvernement doit donner le temps, il faut, le gouvernement ne peut être jugé que sur la base ces indicateurs de gestion-là. Aujourd'hui, on ne sent pas dans la population les effets de l'amélioration de la gestion publique. Mais avec le temps, on pourra compter sur une amélioration de la qualité de la vie, donc en termes de pouvoir d'achat, etc. Mais ce n'est pas l'État qui doit créer des entreprises. Ne comptez pas sur le gouvernement pour créer des entreprises. Il faut compter sur les investisseurs, et les investisseurs, ce sont les citoyens qui sont dans le pays. Et un auditeur qui a parlé de l'amenuisement de ressources, les Congolais n'ont pas d'épargne, etc. Mais il y a des Congolais qui ont des moyens, qui investissent ailleurs. Alors il faut se poser la question, pourquoi ils vont aller investir ailleurs, alors au lieu de créer des emplois dans leur propre pays. C'est à ce moment-là que, ensemble, on peut contribuer à améliorer les conditions du pays, mais on vient de très loin. On vient de très loin. Et les efforts doivent continuer pour améliorer davantage la qualité de la vie, pour que les gens ressentent les effets de la croissance économique, qui doit être basée sur la production intérieure, pour nourrir d'abord la population, c'est pourquoi on met l'accent sur l'agriculture, mais il faut que cette agriculture soit une agriculture fiscalisée. On ne va pas faire de l'agriculture pour que les gens embauchent les gens sans respecter les droits sociaux, etc. Donc il y a un travail qui doit continuer, mais il ne faut pas attendre des miracles en 3-4 ans de gouvernance.
Alors on va écouter les deux derniers auditeurs qui nous ont rejoints dans cette émission. Il y a Maître Dominique qui est à Mbujimayi et Pierre Toumba à Kinshasa. Maître Dominique, bonjour.
Bonjour, Pierre.
Vous avez la parole, Maître Dominique.
Oui, merci bien. Mieux vaut tard que jamais. Je tiens à te souhaiter d'abord mes meilleurs voeux en 2015-2016. Et tiens aussi à remercier nos néo-parts qui nous ont apporté la victoire. Par rapport à la thématique d'aujourd'hui, M. J.R., d'entrée de jeu, je voudrais regretter les propos du professeur quand il dit qu'il ne faut pas compter sur le gouvernement. Il ne faut pas compter sur le gouvernement. Ok.
c'est que lui-même, le professeur, veut tuer le gouvernement. Parce que il doit nous dire où est la place du gouvernement dans
le Maître Dominique, oui. Je crois que peut-être vous avez pris en cours de cette émission. Le professeur expliquait la notion de la fiscalité, l'État-providence n'existe pas, nous ne devons pas, l'État ne doit pas tout faire. Donc nous sommes là dans les socialistes où l'État-providence faisait tout, il devait payer l'école pour nous, il devait payer les hôpitaux pour nous, il devait. Mais le professeur, en tout cas loin est mon intention de pouvoir prendre sa défense, ou encore, parce qu'il a le temps de faire la conclusion, il pourra encore revenir là-dessus, c'est à nous, peut-être nous, population, et dans le cadre de développement durable, nous devons tous investir pour le développement d'un pays. Et c'est à ce niveau-là, en investissant, nous créons des emplois et ça permet à la population de participer d'une manière ou d'une autre à cette démocratie et aussi à l'émergence de notre pays.
Oui, tu as raison, M. Gilles. Lorsque nous prenons où est la place de l'État, où est la place de l'État, parce qu'il y a les petites et moyennes entreprises, il y a ceci, il y a cela, leur rôle c'est lequel? L'État a un rôle à jouer, bien que nous ne soyons pas dans un État-providence, mais l'État congolais a un rôle à jouer, parce qu'aujourd'hui, lorsque Massa Tampogno est en train de faire séduisante auto-satisfaction, Matata voudrait nous faire voir que lui est devenu riche. Matata veut nous faire voir qu'il est devenu riche. Il est comme ses papas qui, celui à la maison, les enfants ne mangent pas, les enfants ne s'habillent pas, les enfants n'étudient pas bien, mais il peut payer des maisons à Dendumba, il peut payer des maisons à des belles familles quelque part, par-ci, par-là. Tout le monde là le connaît riche, mais les enfants sont pauvres. Monsieur Gilles, le Congo a des moyens. Demandez à M. Luzolomande, il vous dira que nous perdons 15 milliards.
Voilà, c'était notre débat. Maître Dominique, c'était notre débat parce que déjà même le procureur s'est prononcé là-dessus pour dire que c'est vrai. Bon, ce n'est pas de manière un peu. C'est pas à la hâte, en fait, qu'on traite des dossiers en justice. Le conseiller avait saisi la justice et la justice est en train de mener des enquêtes là-dessus. Et il y a eu même des déclarations au niveau du Premier ministre tout au long de ces bilans pour dire que c'est pratiquement des chiffres fabuleux, faramineux, donc, mais qui, en fait, n'ont aucun fondement. Bon, voilà. Nous n'entrons pas dans ces débats parce que les enquêtes se poursuivent et nous aurons à en débattre le jour où tout sera mis sur la place publique. Merci beaucoup, Maître Dominique. Pierre Toumba, vous êtes à Kinshasa. Bonjour.
Bonjour, mon cher ami.
Vous avez la parole, Pierre Toumba.
Oui, mon cher ami, je tiens à vous dire que tout ce que notre Premier ministre vient de parler, mon cher, ce sont des dossiers qui ne se superficient pas, mon cher ami. Je vous dis que la situation est déplorable. Je ne sais pas. En français, nous avons nos amis français disent il y a des informations en français facile. C'est pour dire que quand on parle de français facile, on parle de ce que nous venons de voir et ce que nous pouvons tenir à main. Ce n'est pas des problèmes de gros mots pour rien dire, parce que le peuple congolais est en souffrance. Tenez, il y a eu quelques mois qui vient de passer, il y a eu le détournement de 2 millions de dollars aux affaires étrangères. Où en sommes-nous avec ce dossier? Notre ami, le ministre du budget Bongongo, dans les dossiers de doublons, vous avez appris qu'il avait raconté combien de milliards par nos amis qui sont allés dans des enquêtes pour vérifier sur les états de paye des agents et fonctionnaires de l'État. Le ministre d'État Bongongo a donné une affaire de 10 milliards qui a été ramassée.
Voilà, Pierre.
La deuxième opération.
Malheureusement, Pierre, on n'a plus assez de temps. Il nous reste une minute. Le temps peut-être de donner à notre invité la conclusion. Merci, Pierre. Hein, ce n'est qu'une partie remise. Je crois que prochainement, on va vous accorder la parole à temps. Merci beaucoup. Professeur Grégoire, Aurélie, à vous.
Oui, M. Gérard.
Voilà.
Je voudrais d'abord dire que les conditions de vie des Congolais sont connues. Elles sont préoccupantes. La pauvreté s'est aggravée. Alors, le rôle d'un gouvernement, c'est d'aider à renverser la tendance. C'est une action à long terme, ce n'est pas une action immédiate. Et pour que le gouvernement le fasse, il faut qu'il y ait un consensus sur la manière de gérer le pays de manière à avoir une croissance réelle qui s'est traduite par une augmentation du pouvoir d'achat des populations. Regardez hier, M. Gier, ce que nous avons connu dans ce pays avec la victoire des Léopards. On a vu que tous les Congolais étaient à l'unisson. Et je crois que l'économie doit fonctionner de cette manière-là. Il ne faut pas que ce soit l'affaire d'une seule personne ou l'affaire d'un gouvernement. Le rôle d'un gouvernement, c'est donner le cadre, d'encadrer et d'orienter de manière à ce que les ressources collectées sur l'ensemble du territoire soient redistribuées
équitablement.
Et pour cela, il y a des efforts qui doivent être entrepris dans tous les domaines pour boucher tous les trous par où sort l'argent de l'État. Et ainsi, on pourra améliorer la qualité de la vie et répondre. Les indicateurs de gestion, dans tous les pays, les économies sont jugées à partir des indicateurs de gestion. On ne peut pas changer de règles parce qu'on est au Congo.
Voilà, professeur Grégoire Bakandeja, merci beaucoup. Vous êtes professeur en finance publique, d'avoir accepté notre invitation et à très bientôt.
Je vous en prie. Au revoir.
Voilà, ça définit pour aujourd'hui. Nous prenons rendez-vous avec vous demain dans un autre numéro de Parole aux auditeurs. Merci à toute l'équipe qui a concouru à la production de cette émission. Julie Feza, Bongonda et tout au standard. Thierry Lamézi à la réalisation. Sylvain Matundu à la mise en onde. Cette émission vous a été coordonnée, présentée par J.R. Mungembo sous la supervision de Martin C. Boujalé. Le journal de Linda Bossuma à la Bonaventure.
Aujourd'hui au pays avec la Coupe du Chan 2016. Eux, ce sont les Léopards de la RDC. Mais à Kinshasa, des scènes de joie ont été transformées en affrontements entre civils et policiers hier, dans certains coins où étaient déployés des policiers. Pas de bilan établi jusqu'ici. Situation sécuritaire volatile à Miriki et ses environs dans le Nord Kivu, ce qui explique le renfort des FARDC dans la zone. Leur mission, neutraliser toute personne.